Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h-15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Joyeux Noël à tous, une voie est libre spéciale. Cette semaine, on profite des vacances pour s'intéresser aux grands de la littérature, les grands qui écrivent aussi, pas seulement pour les petits. Aujourd'hui, nous explorons l'univers de la comtesse de Ségur et ses petites filles modèles, puis celui de Mark Twain avec Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Bonjour Marie-Joséphine Stritch.
Bonjour Nicolas.
Dans l'émission, je demande toujours à l'écrivain que je reçois quel est le premier roman qu'il a lu, qu'il a marqué. Et une fois sur trois, mais vraiment, hein, c'est La Comtesse de Ségur. Et c'est mon cas aussi, et je pense que ce sera aussi le cas de ma fille. Ce sont des romans pourtant des années 1850-1860. Comment se fait-il qu'ils soient encore si présents aujourd'hui ?
Écoutez, le génie n'a pas de date, de péremption. Hein. Moi aussi, le premier roman que j'ai lu toute seule, c'était Les Malheurs de Sophie. Et je peux dire à rebours qu'elle m'a donné le goût de la littérature. J'ai eu vraiment un choc littéraire en lisant, toute petite, donc, ce premier roman.
Ah oui, mais je voulais y venir plus tard, mais vous avez consacré une partie de votre vie à la Comtesse de Ségur, en fait, puisque vous avez écrit beaucoup de livres.
J'ai quand même fait d'autres choses, mais c'est vrai qu'elle a mes faveurs.
Vous l'avez lu à quel âge ?
Écoutez, je me souviens bien, j'avais 5 ans.
Ah oui.
J'ai lu Les Malheurs de Sophie toute seule et j'ai vraiment découvert la joie de la lecture et de la littérature finalement. Et si plus tard j'ai entrepris des études de littérature, je peux dire que c'est la Comtesse de Ségur et Sophie qui m'ont mis le pied à l'étrier.
Mais parce que je vous posais cette question, parce qu'il y a certains classiques qui fanent un peu, qui correspondent moins à l'époque. La Comtesse de Ségur, on a l'impression qu'elle traverse tout. Mais peut-être je me trompe, peut-être il y a eu des creux, peut-être que, je ne sais pas, moi au début du 20e ça s'est calmé, puis c'est revenu.
Oui, c'est vrai, elle a été un petit peu mise à l'index. Pour des raisons qui vraiment me semblent tout à fait faibles et à ne pas prolonger, cette mise à l'index. Mais son génie littéraire éclate et elle renaît de ses cendres, si je puis dire. Hein. C'est vrai que vous avez tout à fait raison de dire qu'elle a subi une éclipse dans les années 60-70. D'accord. On lui a reproché des tas de choses, mais finalement, écoutez, non, elle a une vraie plume, un vrai style, c'est un génie.
Ben justement, j'allais y venir. Les années 60-70, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'il y a quelque chose d'un peu désuet. Je parlais de modernité, mais il y a aussi quelque chose de désuet.
Oui, elle est désuète, mais elle plaît justement par ce côté. Et si la Comtesse de Ségur est désuète, alors on ne lirait même plus Molière ni Shakespeare, puisque aussi ils sont désuets par certains côtés.
Non, mais je parle de l'éducation, on va y revenir aussi,
oui,
mais c'est pas franchement les valeurs des années 60-70, ni celles d'aujourd'hui d'ailleurs.
Non,
mais,
c'est vrai.
Mais peut-être qu'à une époque, on était en guerre contre l'éducation un peu stricte, la Comtesse de Ségur, du coup,
oui,
ça faisait un peu tâche.
Oui, mais vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est vrai. Mais finalement, le lecteur même de 2021, le petit lecteur, va transcender cela. Hein, il n'y a que les adultes pour faire grise mine.
Alors, on va faire connaissance avec l'auteur, parce qu'on connaît les romans, mais l'auteur peut-être un peu moins. Ségur, d'abord, c'est le nom de son mari.
Oui.
Son nom de jeune fille, c'est Sophie Rostopchine.
Bravo.
Où est-ce qu'elle est née? D'où vient-elle? Quel est le milieu, le contexte, etc.
Ah, écoutez, vous avez raison de souligner le côté romanesque de sa vie. Sophie Rostopchine naît le 19 juillet 1799 à Saint-Pétersbourg, en Russie donc. Elle est la troisième fille du comte Fiodor Rostopchine et de sa femme Catherine. Et Fiodor Rostopchine est, on peut le dire, est l'équivalent du premier ministre du tsar Paul Ier. Et ce sera le tsar Paul Ier qui sera le parrain de la petite Sophie.
Oui, c'est
donc c'est tout de suite vous situez le milieu dans lequel elle va être élevée.
Et il est intéressant son père parce que c'est un héros très ambigu. C'est lui qui est à l'origine de l'incendie de Moscou. Pour faire reculer Napoléon, il a mis le feu à la ville.
C'est cela. Donc cela vous explique aussi peut-être le caractère entier, violent parfois, de la jeune Sophie. Bien sûr, Fiodor Rostopchine a été le gouverneur de la ville de Moscou. Et au moment de l'arrivée des troupes napoléoniennes, en 1812, voyant qu'il ne pouvait pas empêcher l'arrivée de l'envahisseur français, eh bien, il va pratiquer la politique de la terre brûlée. Et il ne va pas hésiter à mettre le feu à la ville de Moscou, en libérant les prisonniers de la ville, en leur confiant la mission de mettre le feu à chaque pâté de maison. Et ainsi, eh bien, l'empereur ne trouvera que des ruines. Et il faut rendre aussi justice à Fiodor Rostopchine, qui, bien sûr, a mis le feu à la ville de Moscou, mais il est aussi allé au grand galop mettre le feu dans sa belle propriété de Voronovo, pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir détruit les biens collectifs et non pas les siens.
Résultat, on est à la fois content de lui et en même temps, il rentre un peu en disgrâce parce qu'il a quand même eu le feu, quoi.
Oui, il rentre en disgrâce et le tsar, qui est alors le fils de Paul Ier, Alexandre, va désavouer le gouverneur de la ville de Moscou et il va finalement dire aux habitants de Moscou qui cherchaient réparation auprès de lui, eh bien que lui, le tsar, n'est pas responsable et qu'il faut voir avec Fiodor Rostopchine. Fiodor Rostopchine est donc désavoué et il doit quitter la Russie. Mais Fiodor Rostopchine ne va pas partir en exil. Il va prendre le prétexte aussi bien diplomatique qu'élégant d'aller prendre les eaux en Allemagne. Et c'est ainsi qu'il va quitter la Russie.
Et au fur et à mesure, il arrivera finalement en France.
Il va arriver en France après avoir traversé l'Allemagne à cheval avec son fidèle domestique Robert. Et arrivé en Allemagne, il prend effectivement les eaux, en particulier à Baden-Baden. Et là, il se rend compte qu'il est salué comme un sauveur. Grâce à ce geste digne de l'empereur Néron, eh bien, l'empereur Napoléon a connu la défaite. Et Fiodor Rostopchine se dit « Tiens, je vais peut-être même aller jusqu'en France pour voir à quoi ressemblent ces Français que j'ai tellement détestés. » Il arrive à Paris et là, bien sûr, il est reçu comme un sauveur et il est reçu par les Bourbons. Qui ont retrouvé le trône de France grâce à lui.
Voilà. Et donc Sophie va venir le rejoindre au bout d'un moment avec
et
sa mère.
Et voilà, mais vous savez tout. Voilà. Oui, Fiodor était parti seul.
Et elle parle déjà français d'ailleurs.
Elle parle français, elle a été élevée en français. Elle parle l'italien, le français, bien sûr, et l'allemand.
Une autre époque,
oui.
Mais alors comment ça se passe pour elle en France? C'est quoi sa jeunesse? Elle a une mère un peu stricte.
Elle a une mère qui est sévère, hein. Très sévère, qui est tourmentée de questions religieuses, de questions de théologie, et qui s'est elle-même convertie au catholicisme. Alors que, bon, c'était la religion russe, c'était la religion orthodoxe. La mère de Sophie est convertie au catholicisme, au grand dame de son père, hein, Fiodor, qui ignorait cette conversion. Et par un jeu qui serait peut-être un petit peu long d'expliquer dans le cadre de cette émission, eh bien, la jeune Sophie Rostopchine, elle aussi, a été convertie au catholicisme quand elle avait 12 ans, 11-12 ans, au pire moment de la guerre avec les Français. Oui. Vous voyez, ça c'est un grand point et qui explique pourquoi elle a pu, une fois arrivée à Paris en 1817, elle avait donc 18 ans, elle a pu prétendre à un mariage catholique.
Avec Eugène de Ségur. Mais revenons sur son enfance, puisque en fait la petite Sophie Rostopchine ressemble quand même beaucoup à la Sophie des malheurs de Sophie.
Oui,
c'est pour ça
sûr.
Que je parlais d'éducation stricte. Il y a quand même des
très strictes.
C'est même du châtiment corporel et de l'humiliation.
Hein. Dur, oui, c'est très dur, c'est vrai.
Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de mauvais, sa mère, ou parce qu'elle veut lui donner cette éducation?
Non, elle a un côté un peu janséniste dans sa manière d'élever ses enfants. Alors, bien sûr, on dit les petites filles ne portaient que des robes de percale blanche en Russie, vous imaginez, mais il faut savoir que dans le domaine de Voronovo, il régnait une douce chaleur. Hein. Donc, c'était quand même pas aussi spartiate et cruel qu'on veut bien l'imaginer. Mais il est vrai que la comtesse Catherine Rostopchine est extrêmement sévère, dure, janséniste.
Et Sophie de Ségur, alors pas tout de suite, mais elle finira par écrire en français. On se penche sur les débuts de sa carrière littéraire dans un instant.
Joyeux Noël sur Europe 1. Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, Joyeux Noël, nous arpentons l'univers de la comtesse de Ségur aujourd'hui. Les vacances, Mémoire d'un âne, Les deux nigauds. C'est fou ces titres qui résonnent pour tout le monde, Marie-Joséphine Stritch.
C'est magnifique. J'aime bien vous les entendre dire. La comtesse de Ségur, Sophie de Ségur, née Rostopchine, a su créer des types. Et si l'on dit les petites filles modèles, immédiatement on a une image en tête. On voit Camille et Madeleine. Un bon petit diable, on imagine aussi la mère Macmiche, etc. Quand on dit le cadichon, on imagine cette âne très intelligente de Normandie. Elle a su créer des types. C'est pour cette raison que tous les titres évoquent quelque chose et parlent immédiatement. Je dirais bien que les romans de la comtesse de Ségur appartiennent au patrimoine culturel de tous les Français.
Mais c'est ça, en fait, la marque des mythes littéraires. C'est-à-dire que les personnages qu'on connaisse, qu'on ait lu ou pas le roman, on sait à peu près, on entend le nom, on le connaît. C'est comme Jean Valjean, on sait à peu près qui c'est, Cosette.
Exactement.
Aussi. Et c'est pareil pour la comtesse de Ségur.
C'est tout à fait cela.
Alors, il y en a peut-être quand même un qui est le plus célèbre que les autres, c'est Les malheurs de Sophie.
Ma poupée va manger des poissons bien salés.
Mademoiselle Sophie,
Dites-moi que vous n'avez pas touché au poisson.
Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises.
Il est bizarre, Sophie, il est froid.
Dis pas du tout ça.
Qu'est-ce que je vais faire, une petite fille pareille, hein?
Oups.
Tu es punie pour 3 jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir.
C'était la bande-annonce de l'adaptation par Christophe Honoré, c'était en 2016, des Malheurs de Sophie, publié le roman, évidemment, en 1858. C'est son premier roman, mais avant, elle avait quand même publié un recueil de contes, je crois.
Oui, et même avant, en 1855, un ouvrage de pédiatrie intitulé « La santé des enfants ». Il est intéressant de noter que cette même année 1855 voit l'apparition du terme « pédiatrie », c'est-à-dire « médecine pour les enfants ».
Mais elle s'intéressait à la science
pédiatrique. Oui, elle a perdu un enfant elle-même. Ah, son deuxième enfant va mourir à l'âge de 3 semaines. Elle perd quelques petits-enfants et elle estime que les médecins sont parfois des ânes et pas aussi intelligents que des champs. Donc elle va donner des conseils de bon sens. Et elle explique qu'il ne faut pas langer les enfants de manière trop serrée, il ne faut pas mettre des chaussures trop pointues, même faire porter des chaussures à bout carré. Enfin, elle donne des détails très précis.
Mais par son expérience ou parce qu'elle consulte des scientifiques ?
Elle a consulté et elle a tiré beaucoup d'enseignements de sa propre expérience.
Ah oui, c'est quelqu'un qui est,
qui est
dans son temps.
Qui est tout à fait dans son temps. Et elle vivrait actuellement, je suis sûre qu'elle aurait le téléphone dernier cri.
Ah oui.
Oui. Il faut savoir qu'à son époque, elle s'était acheté une paire de bottes en caoutchouc. Qui était une nouveauté. Ah. Elle aimait bien marcher dans l'herbe mouillée de Normandie. Et un soir, elle va les placer près de la cheminée. Et bien sûr, le lendemain, elle ne retrouve que 2 petits tas. Elle est très, très déçue. Et elle en parle à beaucoup de gens. Oui,
ça fait une expérience de plus. Pourquoi l'écrit-elle ? Elle a 59 ans à ce moment-là.
Elle a 59 ans. Et elle se met à écrire pour ses petites filles, qui sont modèles, bien sûr, mais ses vraies petites filles, Camille et Madeleine de Malaret, qui vont suivre leurs parents à Londres. Leur père est nommé secrétaire à l'ambassade de France à Londres et elles sont désespérées de quitter Paris, la Normandie, car elles n'auront plus les récits de leur grand-mère. Et c'est ainsi que Sophie de Ségur va jeter sur un cahier les récits qu'elle leur faisait jusqu'alors. Et ce cahier va voyager, c'est ce que dit l'histoire. Le cahier va voyager jusqu'à Londres et là, les parents le lisent, le confient à Louis Veuillot et de fil en aiguille, eh bien, le manuscrit va arriver sur la table de Hachette. Et là, je dois préciser qu'à ce moment-là, Louis Hachette a eu l'idée géniale de créer la Bibliothèque des Chemins de Fer. Ouais.
L'ancêtre de la Bibliothèque Rose, en fait.
Oui, c'est cela. Mais Louis Hachette a eu cette idée géniale de faire lire les gens qui prenaient le train pour la première fois, qui pouvaient s'affoler, s'inquiéter. Et donc, dans les gares, si vous avez encore de nos jours des relais Hachette, c'est un privilège qui date de cette époque. Et la Bibliothèque des Chemins de Fer avait une collection, avait plusieurs collections, chacune définie par une couleur. Et le rose était dévolu aux enfants.
C'est un succès immédiat ou ça met un peu de temps ?
Succès, hein. Oui, puisque Louis Hachette demande d'autres romans. Et il y aura une trilogie qui va se construire, les Malheurs de Sophie, les Petites Filles Modèles et les Vacances.
Alors, j'ai appris que dans le manuscrit des Malheurs de Sophie, Sophie ne s'appelle pas Sophie, mais Marie.
Exact.
Et que Marie est raturée et qu'elle a choisi Sophie, qui est son prénom.
Oui.
Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le côté... mémoire, au fait, des Malheurs de Sophie.
Je pense que ça veut dire beaucoup. Hein. Oui, ça signifie beaucoup. Effectivement, le manuscrit présente dans les premières pages la petite héroïne sous le prénom de Marie. Et puis, à la 6e page, si mes souvenirs sont bons, un trait rageur barre Marie et écrit Sophie à la place. Là, on sent très bien que la comtesse de Ségur n'y tient plus. Elle se dit, c'est moi-même qui me mets en scène, je ne vais pas continuer à jouer la comédie, c'est moi. Et souvenez-vous aussi du chapitre Les fraises des bois. La petite Sophie s'en va avec sa mère, on est censé être en Normandie, et soudain, la plume doit un petit peu glisser vers la Russie. Elles doivent aller rendre visite à quelqu'un dans une ferme, la ferme de Zuitine, qui sonne quand même bien russe. Et pourtant, nous sommes en Normandie. Donc on le voit, la plume de Sophie, elle a bien envie de rester un peu en Russie, de parler d'elle-même.
C'est souvent comme ça pour les premiers romans d'ailleurs. Mais bon,
absolument.
C'est aussi un peu le cas dans les autres romans de la comtesse de Ségur. Justement, les malheurs de Sophie, c'est intéressant. On parlait de l'éducation stricte qu'elle retranscrit aussi dans les malheurs de Sophie. Mais c'est d'abord peut-être une petite fille qui se donne la liberté de faire des bêtises. C'est peut-être ça aussi ce qui plaît aux petites filles aujourd'hui.
Je crois que c'est cela, oui. Elle séduit, hein, la petite Sophie. On sait qu'elle va faire des bêtises. Dans l'extrait des Poissons Rouges, là, elle explique avec beaucoup de sagesse. Finalement, elle dit « Mais je ne pensais pas qu'ils puissent souffrir, ils n'ont pas crié. » Moi, enfant, j'étais pétrifiée par la justesse de cette remarque. Elle séduit, c'est une vraie petite fille entière, hein, qui n'hésite pas à confronter la réalité des tentations de la vie.
Elle en subit les conséquences aussi.
Elle en subit très courageusement les conséquences, oui.
Justement, quand il a été publié, est-ce que c'était déjà sous le nom La Comtesse de Ségur tout court, ou est-ce que c'était Sophie, Comtesse de Ségur,
Alors, c'était Comtesse de Ségur, et elle mettait toujours, à la fin de la petite dédicace, née Rostopchine. C'est important, hein. Elle tenait quand même à ses origines russes. Comtesse de Ségur, née Rostopchine. Ce qui est quand même important à l'époque. Maintenant, ça paraît tout à fait évident, mais je crois que c'est important. Il faut aussi rendre hommage à Eugène de Ségur.
Ah, c'est ce que j'avais demandé.
Oui, il est de bon ton de taper sur lui, mais moi, je prends sa défense. C'était un bel homme, un séducteur.
Volage,
oui. Mais il a eu la grande générosité, la grande gentillesse d'autoriser sa femme à récupérer elle-même, toute seule, les sommes gagnées par ses manuscrits publiés. Maintenant, ça paraît tout à fait normal.
C'est ça. Mais moi, à l'époque, c'est pas rien.
Oui, à l'époque, ce n'est pas rien. Donc,
il a eu la gentillesse aussi, si on peut dire, mais ce n'est pas le cas, de la laisser toute seule, en fait, parce qu'il partait sans arrêt, il n'était jamais avec elle.
Oui.
Et donc, il y a ça aussi, quoi. Elle a eu la solitude de l'écrivain.
Exactement. Oui, bravo. Voilà un élément de plus pour la sauvegarde d'Eugène.
Je ne sais pas s'il vivait comme ça, mais... Non, mais cela dit, ils ont un rapport assez particulier, puisque vous en parlez, c'est un couple un peu étrange, en fait.
Un peu étrange.
C'est pas sans amour, mais...
Un mariage d'amour. Hein. Eugène de Ségur se marie donc en 1819 avec Sophie de Ségur. C'est un très beau mariage qui a lieu au Faubourg Saint-Germain. Le mariage est célébré dans la chapelle privée du cardinal de la Luzerne. Et quelques mois après, apparaît le petit Louis-Gaston de Ségur, qui est vraiment l'enfant de l'amour. Alors ensuite, peut-être qu'il y aura des dissensions, c'est difficile à dire, hein, de juger à rebours avec notre œil contemporain de leur relation. Mais c'est une femme intelligente, elle a beaucoup de force aimante et elle va les reporter sur ses enfants et ses petits-enfants.
Quand même, on retombe, pour revenir à l'œuvre, on retrouve quand même souvent ces châtiments corporels, pas seulement dans les malheurs de Sophie.
Oui.
Est-ce que c'est une manière de les dénoncer ou est-ce qu'au contraire, c'est juste sa réalité à elle qu'elle retranscrit ?
Alors, les châtiments corporels sont nombreux.
Est-ce qu'il y a un geste politique ? Voilà.
Les châtiments corporels sont nombreux. Jacques Laurent avait l'habitude de dire qu'il y avait autant de fouets et de knouts et de cravaches dans les romans de la comtesse de Ségur que de cendriers chez un fumeur, certes. Mais... Je crois qu'elle a été élevée dans un monde très dur et âpre. Hein. Son père, n'oublions pas, en Russie, avait le droit de vie et de mort sur tous les serfs qui travaillaient pour lui.
Et
c'est quand même une autre époque, une autre civilisation, c'est très dur. Elle a dû assister à des scènes pénibles. Mais quand elle met en scène des châtiments corporels, eh bien vous noterez que c'est toujours le fait des parents dépassés. Ce n'est pas l'apanage des bons parents. Madame de Fleurville, le rêve de la bonne mère, et Madame de Rosbourg ne frappent jamais. Hein. Ce sont toujours les parents dépassés.
Ce matin-là, dans sa vieille maison sale et triste, Madame MacMiche tricotait, assise devant une fenêtre, en s'impatientant de plus en plus.
Où est-il encore allé traîner ce vaurien ? Il finira pendu à une corde si je n'arrive pas à le rendre plus obéissant.
Madame MacMiche venait à peine de grommeler cela lorsque la porte s'ouvrit.
D'où viens-tu, misérable ?
J'ai été retardée par Juliette. Elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix et elle m'a demandé de la ramener chez elle.
Viens, suis-moi. Je vais t'apprendre à te mettre en retard.
Voilà, c'était Chambre. Un extrait d'un bon petit diable, version livre audio, édition EPM Jeunesse. Marie-Joséphine Street, je vous voyais sourire pendant toute la lecture.
Ah, c'est merveilleux.
Et vous m'avez dit tout à l'heure, dès que je parle de la comtesse de Ségur, je m'enflamme.
Ah oui, je m'enflamme.
Vous avez quand même une passion.
Oui, c'est très étrange.
C'est assez beau, en fait.
Ben oui, je suis entière, là, dans cette attirance.
Parce que vous êtes très peu à vous intéresser à l'œuvre de la comtesse de Ségur.
Oui.
C'est un peu comme Dumas. Est-ce que, alors de moins en moins pour Dumas, mais est-ce qu'il y a une forme de mépris universitaire ou c'est moi qui me fais des idées?
Oui, non, non, vous avez raison. C'est vrai que l'on sourit parfois au vu de mes publications. C'est un « on » très général et un peu professionnel, mais peu me chaud, hein, ça m'est égal. Il est vrai que la comtesse de Ségur est considérée comme un écrivain d'écriture enfantine. Et je préfère au terme littérature enfantine, littérature d'enfance. Car rien n'est plus difficile que d'écrire pour des enfants.
Quelle est la différence?
Enfantine, il y a un côté puéril. Et la lecture de textes de littérature enfantine ne survivra pas au temps. Prenez un livre, je ne veux pas la massacrer, mais La malheureuse Zénaïde Fleuriot, qui a écrit à la même époque que la comtesse de Ségur. Quand on les reprend, ces livres, à l'âge adulte, on a quand même un peu de mal.
C'est la bête.
Oui, ça retombe vite, hein, c'est un peu artificiel. Mmh. Alors qu'avec la comtesse de Ségur, ça démarre tout de suite. Mmh.
C'est quoi d'ailleurs sa place dans la littérature jeunesse ou la littérature d'enfance? Est-ce qu'elle marque une rupture? C'est quoi sa position?
Elle a une place importante, hein, puisqu'elle a écrit donc, à partir de 1855, hein, grosso modo, à une époque où justement on découvre l'enfant. Et on découvre l'enfant, c'est ça qui est extraordinaire. L'impératrice Eugénie a ce petit garçon, le prince Lou, qu'on appelle Loulou familièrement. Et
avant, c'est un héritier ou de la main-d'œuvre, quoi.
Voilà. On découvre l'enfant, on va donc créer des livres spécifiquement pour les enfants, une littérature pour les enfants, des vêtements pour les enfants. Jusqu'alors, on les habillait un peu comme des adultes miniatures. On crée même une manufacture de jouets, les manufactures d'Épinal. Elle est dans ce mouvement de la découverte de l'enfant. C'est très important. Et elle a une place majeure. Parce qu'elle surnage. 200 ans après, eh bien, elle est toujours là.
Justement, tout se décide et se cristallise dans l'enfance. C'est aussi ce qu'elle nous dit. Et est-ce que ça ne s'adresse pas aussi aux parents, à ceux qui lisent aux enfants ces histoires, en leur disant « Attention, tout se décide maintenant. Faites gaffe à ce que vous faites avec
eux. » Vous avez tout à fait raison. Vous parlez d'or. Ah oui, c'est tout à fait cela. Et vous avez raison de préciser que finalement, ces premières lectures se font aussi par le biais des parents. Le père, la mère peut commencer à lire un chapitre et ça va entraîner l'enfant à découvrir la suite. Ça marche très bien.
Mmh. Alors, elle a des problèmes de santé aussi à la fin de sa vie. Et puis, des périodes de mutisme aussi qui sont restées célèbres.
Oui, elle a eu donc 8 enfants en 15 ans. Une belle régularité.
C'est une belle moyenne, oui.
Oui, et son dernier enfant, Olga, va naître en 1835. Et de 13 ans plus tard, eh bien, elle va retrouver la voix. De 1835 à 1837, elle n'a plus pu parler. Une sorte d'extinction de voix phénoménale.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors là, tout le monde...
Voilà, on spécule.
On spécule avec une joie extraordinaire, oui.
Mais elle écrivait sur une ardoise pour discuter.
Elle écrivait sur une ardoise, oui. On respectait beaucoup le silence des nouettes quand elle avait des terribles migraines également. Et vous êtes très bien documenté sur oui, bravo. Et elle va mourir, la malheureuse, le 9 février 1874, à l'ombre de la basilique Sainte-Clotilde, à Paris, 7e arrondissement. Et elle va mourir de problèmes cardiaques.
Alors, pas dans la misère, mais enfin, elle a quand même perdu.
Elle tire un peu le
elle
diable par la queue.
Elle a des problèmes financiers. Hein.
Oui.
Les ventes se sont amenuisées, son mari est mort.
Oui.
Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi le succès n'est plus tellement au rendez-vous?
Non, elle aidait aussi énormément tous ses enfants et tous ses petits-enfants. Ah. Elle a une idée de la pauvreté, hein, qui est une... Elle vit pauvrement, dans une certaine humilité.
D'ailleurs, elle devient franciscaine à la fin de sa vie.
Dans le tiers ordre de... Bravo. Oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'elle n'est pas franciscaine vraiment, mais c'est un ordre laïque de
c'est
gens
ça,
qui veulent vivre
ordre.
Comme Saint-François,
exactement.
C'est-à-dire
donc,
dans une forme de pauvreté.
Tout à fait cela, exactement.
Et alors, vous parliez de ses enfants, sur sa pierre tombale est inscrit « Dieu et mes enfants », c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Ce qui compte, c'est ses enfants et ses petits-enfants?
Absolument. Les petits-enfants, ses enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait de grandes forces aimantes. Son mari a peut-être un peu pris des volages, certes, mais bon, elle a reporté tout cela sur ses enfants et petits-enfants. Sa tombe se trouve dans le village de Plunerette, non loin de Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne. Cette Bretagne qui est le point de départ du roman Jean qui rit et Jean qui grogne. Mmh. Et également des deux Nigauds qui veulent quitter leur Bretagne pour découvrir Paris.
Et ces petits-enfants, justement, ils se retrouvent tous à peu près dans les romans, en fait.
Oui, puisque à chaque naissance, elle en écrivait un et le dédiait au nouvel arrivé.
On connaît les héritiers de la comtesse de Ségur encore aujourd'hui?
Ah oui, il y a toujours bien sûr des représentants de la famille Ségur. Louis-Gaston de Ségur est le dernier représentant du nom et il vit à Paris.
C'était un peu en fil rouge de notre conversation, mais elle a quelque chose de très religieux, la comtesse de Ségur.
Oui.
Et ses romans, il y a aussi quand même une forme de, comment dire, il y a l'idée du bien et du mal en général qui revient souvent.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi un ouvrage moral.
Oui, ce serait difficile de ne pas l'être dans des lectures pour des enfants, ce serait épouvantable. Non,
mais je veux dire, c'est elle qui définit quel est le bien, quel est le mal.
Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est dans les Malheurs de Sophie, oui, le chemin rocailleux qui est le chemin du mal, du péché, et puis le chemin ponctué de jolies fleurs qui est le chemin du bien et de la bonne action. Et Sophie raisonne beaucoup sur le bien et le mal. Elle regrette toujours ses mauvaises actions.
Oui, il y a quelque chose de la culpabilité catholique aussi.
Oui. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup, Marie-Joséphine Stritch. Dans un instant, La Voix est libre continue, mais en Amérique, avec Mark Twain. À tout de suite.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, après la comtesse de Ségur, toujours de la littérature, aussi pour les enfants. Nous partons chez Mark Twain et Tom Sawyer. Ça, c'est l'adaptation en dessin animé, c'est le générique et son auteur, donc c'est Mark Twain, l'auteur du roman, pas du générique bien sûr. Pour en parler, nous appellerons tout à l'heure Denis Podalydès, le comédien fan de Mark Twain, et j'ai invité un éditeur, mais pas n'importe lequel, l'éditeur de la maison d'édition Tristram. Ils sont basés à Auch et régulièrement, ils éditent des pépites, des trésors perdus ou oubliés, ou des inédits bien sûr. Entre autres faits d'armes, ils ont retraduit Tom Sawyer, justement, et Huckleberry Finn. Bonjour Jean-Hubert Galliot.
Bonjour.
Je voudrais faire une sorte de fausse ouverture avec vous, si vous voulez bien. J'ai passé l'extrait là, du dessin animé de Tom Sawyer parce que je me rends compte qu'en France, bizarrement, le nom Mark Twain n'est pas hyper connu. Il est connu, bien sûr, mais enfin, si je fais un sondage dans la rue, je ne suis pas sûr que tout le monde tilte. Après, on dit l'auteur de Tom Sawyer est là, ah d'accord. Et pourtant, c'est quand même l'un des pères de la littérature américaine, un des plus grands écrivains au niveau mondial. Comment est-ce qu'on explique ça, Jean-Hubert Galliot? On a trop de monstres sacrés en France, on n'a pas de place pour les classiques étrangers, c'est quoi l'histoire?
Oui, alors cela dit, ça n'est quand même pas une punition pour un écrivain que l'un de ses personnages, l'un de ses héros soit plus célèbre que lui-même. C'est peut-être même l'indice de la réussite maximale pour un romancier. C'est-à-dire de créer un ou plusieurs archétypes qui le dépassent totalement. Mais il est vrai que l'importance et la mesure et les raisons de l'importance réelle de Mark Twain ont eu énormément de mal à s'imposer dans la conscience littéraire française, probablement parce que à l'époque où il a connu une immense célébrité aux États-Unis puis dans le reste du monde, donc ça avait également atteint la France, mais en effet de manière assez limitée. C'était une époque donc à la jonction de la fin du 19e et du début du 20e siècle où on traduisait peu d'auteurs étrangers en France, parce que la littérature nationale avait une énorme prééminence. Donc il y avait ce défaut, tout simplement, d'ouverture à ce qui s'était écrit ailleurs. Twain présentait peut-être des difficultés supplémentaires parce que il était perçu comme un romancier plutôt des campagnes et non pas comme un romancier de la grande ville avec le caractère universaliste que ça aurait pu avoir. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Ça posait de très 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 sérieux problèmes de traduction, et en l'absence de bonne traduction, un écrivain comme Mark Twain, même si c'est un écrivain extrêmement simple et extrêmement accessible, s'il n'est pas traduit de la bonne manière, il devient plus difficile à comprendre et surtout plus difficile à aimer.
Alors, il faut dire aussi que je ne vous ai pas invité par hasard. Vous êtes, je l'ai dit, cofondateur des éditions Tristram, qui publie régulièrement des chefs-d'œuvre, et vous avez publié aussi l'autobiographie de Mark Twain, qui est une somme. C'était il y a quoi, 5-6 ans. Mark Twain est mort en 1910 et il voulait que son autobiographie ne soit publiée qu'un siècle après sa mort. Vous nous racontez cette histoire ?
Oui, alors ça fait partie de ces histoires fascinantes de l'histoire de la littérature et de l'histoire de l'édition. Lorsque Mark Twain décide de s'engager dans ce projet d'écriture autobiographique, qui était un genre qu'il réprouvait, car il considérait que ça ne donnait jamais de bons résultats et que tout écrivain qui se lançait dans l'écriture de son autobiographie allait droit dans le mur. Parce que, selon lui, la seule raison d'être d'une autobiographie, c'est de tout dire sur tout le monde, sur tous les sujets, sans aucune espèce de limitation et d'autocensure. Et que, naturellement, lorsqu'on écrit son autobiographie, on est encore vivant au milieu des autres et au milieu de son temps. Et la peur de déplaire, la peur de choquer, la peur de faire de la peine fait que on dévoile le projet autobiographique. Et en même temps, Twain, qui était devenu un vieux monsieur, puisque son autobiographie, il l'a écrite au cours des 10 dernières années de sa vie, donc entre l'âge de 65 ans et de 75 ans. Il est mort en 1910, donc il a écrit ça dans les 10 premières années du 20e siècle. Il savait bien que l'autobiographie était en même temps l'un des plus grands défis et l'une des aventures les plus exaltantes possibles pour un écrivain. Donc il a longtemps tourné autour de cette question, de ce problème. Il a fait plusieurs tentatives de récits autobiographiques auxquels il a à chaque fois renoncé très très rapidement parce que ça n'allait pas, toujours pour cette raison d'autocensure. Et puis il a trouvé une double solution absolument géniale. La première, radicale, c'était de dire « je vais écrire absolument ce que je veux écrire, mais je décréterai un embargo », c'est-à-dire que ça ne pourra pas être publié moins de 100 ans après ma mort.
Ce qui n'a pas tout à fait été le cas, d'ailleurs.
Ce qui n'a pas été le cas, mais pour...
Des fuites.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, des arrangements avec la postérité, parce que Mark Twain était devenu presque une marque commerciale, et donc tout écrit inédit de Twain qui pouvait être commercialisé, c'était bon pour les affaires. Mais enfin, ce qui a paru dans cet intervalle de moins de 100 ans après la mort de Twain, c'était quand même pas grand-chose, et parfois même des choses qui avaient déjà été publiées dans des journaux. Alors que l'autobiographie telle que nous avons entrepris de la traduire, et telle qu'elle est désormais intégralement parue aux États-Unis, c'est un énorme monument de 2000 pages, sans compter les notes. Ça serait un peu l'équivalent des essais de Montaigne dans l'histoire américaine. Et donc Twain décide de cet embargo. Vous pourrez le publier, mais 100 ans après ma mort, si toutefois il y a encore quelqu'un d'ailleurs pour s'intéresser à quelque chose que je peux avoir écrit. Mais en tout cas, la garantie, c'est qu'à ce moment-là, toutes les personnes concernées seront mortes, la génération suivante aussi, et que ça sera purement de l'histoire. Donc ça, c'est la première décision qu'il prend. Et la deuxième, alors qu'elle est purement littéraire, c'est que plutôt que d'écrire son autobiographie, il décide de l'improviser face à une sténo, et une sténo qui n'était pas absolument experte, c'est-à-dire que ça l'obligeait à raconter, mais à raconter pas trop vite, et donc d'avoir le temps de méditer et de tourner ses phrases de la manière qui lui convenait. Et donc cet immense récit de plus de 2000 pages a donc été improvisé tous les matins au réveil, après avoir pris une tasse de café et un jus de fruits, après avoir jeté un coup d'œil sur la presse du jour. D'ailleurs, en général, Mark Twain prenait un événement dans l'actualité qu'il commentait, mais qui lui évoquait un souvenir, une personnalité qu'il avait connue. Et comme ça, pendant des années, tous les matins, par petites portions de deux ou trois pages, il a raconté à cette sténo qui prenait en note ce qu'il disait, une portion de son existence, mais qui à chaque fois reflétait beaucoup plus que l'élément concerné, et beaucoup plus que la vie de Twain, son temps, l'histoire de l'Amérique, l'histoire du monde, ses opinions et des idées très 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 vastes. Donc c'est un récit absolument extraordinaire où on passe des petits aux grands sujets, du récit d'une vie personnelle et parfois très très intime. Il y a eu de grands malheurs dans la vie de Twain, même s'il était un grand humoriste, donc il y a tout ça. Et puis en même temps, il était l'ami des présidents des États-Unis, donc c'est aussi...
Et bien justement, Jean-Hubert Galliot, dans un instant, restez avec nous, puisqu'on va ouvrir les premières pages de cette autobiographie. À tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, nous continuons notre navigation sur le Mississippi avec Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
Tom, alors qu'est-ce que t'en dis? J'ai presque fini.
Déjà?
Ouais, j'ai commencé très tôt ce matin. Tu vois, j'ai réussi à me débrouiller sans toi.
Monte un peu voir.
J'arrive.
Regarde comme j'ai travaillé, ça te plaît? Oh, c'est bien, oui, c'est très bien. Tu as fait très vite. Ce qu'il y a, c'est que finalement, c'est très différent du plan que tu avais dessiné.
Oh, ouais. Tu sais, sur le plan, j'avais fait une maison beaucoup trop belle pour moi. Je serais plus à l'aise comme ça.
De toute façon, une maison sans toit, c'est pas une vraie maison et c'est pas joli du tout.
Qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi qui habiterai?
Oui, je le sais bien, c'est ta maison et pas la mienne. Et c'est pas moi qui y habiterai, je suis d'accord. Mais j'ai une petite idée qui pourrait peut-être nous permettre de construire facilement une maison digne de toi. Regarde, en prenant ce qu'il nous faut ici, on va pouvoir te construire une vraie maison.
Bah, je te répète que je trouve ma maison très bien. Pourquoi tu ne laisses pas faire ce que je veux?
Parce que je veux une belle maison pour toi. Alors viens m'aider au lieu de dire des bêtises.
De retour dans La Voix est libre, consacré à Mark Twain aujourd'hui. C'était un extrait du dessin animé, l'adaptation des aventures de Tom Sawyer. C'est ma génération, ça. Moi, c'était le Club Dorothée, tout ça. Toujours avec nous, Jean-Hubert Galliot, l'éditeur de chez Tristram, spécialiste notamment de Mark Twain, qui a publié beaucoup de Mark Twain. Vous êtes toujours avec nous. Justement, on a parlé de la publication de son autobiographie tout à l'heure. On va commencer à ouvrir les premières pages. C'est qui Mark Twain, plutôt je devrais dire Samuel Clemence, c'est son vrai nom. C'est qui Samuel Clemence enfant? Ça ressemble à quoi sa vie au début?
Alors oui, effectivement, Mark Twain, de son vrai nom Samuel Clemence, c'est un gamin d'une famille déjà un peu nombreuse, extrêmement provinciale, puisqu'on est dans le sud des États-Unis. C'est aussi une famille. Alors, ça n'est pas une famille de pionniers. Ils ne sont pas en première ligne de la conquête de l'Ouest, mais ils font partie.
Mais dans cet esprit-là, quoi.
Oui, en tout cas, ils font partie. La famille Clemens fait partie de ces familles qui avancent dans les nouveaux territoires après qu'ils aient été conquis et que des villes ou des embryons de villes aient été établis. Donc ils font partie, disons, de la deuxième vague avec toute la dimension de précarité et malgré tout d'aventure que cela peut impliquer. C'est une enfance très très instable, avec de nombreux déménagements, avec un père qui mourra d'ailleurs assez tôt d'une maladie, qui avait fait des études de droit, mais qui en même temps, ayant peu d'emploi dans ce domaine, a toujours finalement recherché la fortune sans jamais l'obtenir, et en étant plutôt un spécialiste des investissements malheureux. Donc c'était une enfance, je pense, amusante, parfois dramatique, et en tout cas assez chaotique et bohémienne.
Il ressemble à Tom Sawyer ou pas, à cette époque-là?
Oui, probablement. En tout cas,
dans la sociologie, je veux dire, dans les aventures.
Oui, l'histoire de Tom Sawyer, comme celle de Huckleberry Finn, puisque ces deux livres, en réalité, n'en font qu'un, ça se situe dans un petit village, une petite ville, plutôt une bourgade du Missouri qui s'appelle Hannibal dans la fiction, mais qui est la représentation exacte de la bourgade dans laquelle le futur Mark Twain a réellement grandi. Donc tout ce matériau est réel, est vraiment inspiré de la véritable enfance de Mark Twain, et jusqu'à un certain point en tout cas, on pourrait, oui, sans doute faire une analogie entre le caractère extrêmement déluré, très débrouillard, farceur, espiègle, parfois manipulateur, du petit Tom Sawyer.
En tout cas, il n'écrit pas tout de suite. Hein. Si on avance un peu, il fait toute une série de voyages et de petits boulots un peu partout. Il expérimente beaucoup de choses.
Oui. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gamins de cette époque, Mark Twain a travaillé très tôt. Détail d'ailleurs remarquable, son premier métier a été celui de typographe, ou plus exactement d'apprenti typographe.
Imprimeur, quelque chose comme ça, quoi.
Oui, c'est-à-dire que typographe, c'est-à-dire que c'était la composition avec des caractères en plomb pour imprimer le journal local. Évidemment, à l'époque, c'était la seule source d'information. Donc tous les patelins avaient une gazette, une feuille d'information. Il y avait énormément de travail dans ce domaine-là. C'était un gros travail manuellement de composer les des articles avec les caractères en plomb. Et Mark Twain, donc, je sais pas, vers l'âge de 15-16 ans, a commencé cet apprentissage de typographe. Et à l'échelle de sa vie, voilà quelqu'un qui aura d'ailleurs fait absolument tous les métiers possibles liés à la chose imprimée, ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne du livre. Il a été typographe, il a été journaliste, il a été évidemment écrivain, il a été critique, il a été éditeur, puisque c'est l'une des premières choses d'ailleurs qu'il raconte dans son autobiographie, parce que c'était, je pense, très important pour lui. Il a créé une maison d'édition pour éditer les mémoires du président Grant, le héros de la guerre de sécession, qui était l'un de ses meilleurs amis. Et voilà, et tout ce qui concerne le monde de l'écrit, le monde de l'imprimé, le monde de la presse, le monde du livre, Twain a touché à tout cela et s'est beaucoup intéressé. Il s'est intéressé aux questions du droit d'auteur lorsqu'il était devenu plus âgé et où sa notoriété lui permettait d'avoir une parole qui pouvait peser dans le débat public. Il a investi énormément dans l'invention d'une machine à composer justement les textes imprimés, qui permettait de mécaniser les opérations et d'aller beaucoup plus vite. Ça a d'ailleurs été un fiasco commercial retentissant qui l'a totalement ruiné. Donc oui, il
essaye beaucoup de choses en fait. Il travaille sur un bateau aussi.
Oui, alors ça c'est dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il part à l'aventure et donc en effet il a été comme ça moussaillon sur un bateau à aubes sur le Mississippi. On peut supposer sous les ordres d'un capitaine apparemment assez charismatique qui a beaucoup compté pour lui, pour l'anecdote. Mais enfin, s'agissant d'un écrivain comme lui, à vrai dire rien n'est anecdotique. C'est lors de cette vie sur le Mississippi qu'il a forgé son nom d'écrivain, Mark Twain, voilà. puisque Mark Twain, dans le langage des marins, ça signifierait deux brasses de profondeur, c'est-à-dire...
Mark Twain.
Exactement, voilà, c'est-à-dire la profondeur dont on a besoin pour que le bateau puisse passer à travers une profondeur d'eau suffisante, mais c'est à double sens, puisque Twain, ça évoque aussi l'idée des jumeaux, et Mark Twain, qui de manière très facétieuse a toujours beaucoup joué avec son propre personnage et sa propre légende, a beaucoup prétendu que lorsqu'il était né, il n'était que l'un de deux frères jumeaux, que malheureusement à la naissance l'un des deux frères jumeaux, en prenant un bain dans une baignoire, s'est noyé, et il disait on ne sait jamais lequel a survécu d'ailleurs, ce qui est une manière lui-même de se, comme écrivain, de s'inventer comme finalement quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la vie, qui est peut-être un mort qui écrit, et en tout cas voilà, avec une grande indécision sur l'identité qui était la sienne.
Et il va se mettre à l'écriture sur le tard, on en parle dans un instant.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, émission spéciale Mark Twain aujourd'hui, dernière partie, et donc il est l'heure d'appeler un invité spécial, pas forcément expert de l'auteur du jour, mais lecteur et admirateur. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Quand est-ce que vous avez rencontré Mark Twain, vous ?
Alors, je ne me souviens plus, c'est tellement ancien. C'est je crois que j'étais très petit, c'était dans la chambre d'enfant, ça faisait partie des livres. Ma grand-mère était libraire et nous donnait comme ça régulièrement des livres, et j'ai dû tomber dessus avec mon frère. Et la première lecture était, je me rappelle, c'était une lecture illustrée, et tout de suite m'avait frappé le personnage de Colbert et Finn. Qui parfois m'attristait. C'est un enfant livré à lui-même, qui errait et qui n'allait pas à l'école. C'est dans ce livre que j'ai découvert l'expression « l'école buissonnière ». Je ne savais absolument pas ce que c'était, et moi qui étais un fanatique de l'école, ça m'attristait beaucoup que ces enfants n'aillent pas à l'école, ou plutôt s'y ennuient à tel point qu'ils doivent en partir.
Ah, c'est vrai, vous étiez heureux à l'école, vous ?
Ah oui, moi l'école était une sorte de paradis pour moi. C'était un lieu. J'ai toujours, jusqu'à J'ai d'ailleurs essayé de rester à l'école. Vous voyez, je suis encore à l'école, à la Comédie Française, c'est une sorte de grand lycée. J'ai aimé l'enseignement, ça m'apportait énormément, mes professeurs, mes instituteurs, ensuite les professeurs de lettres. J'étais pas le plus sage des élèves, mais j'étais sûrement un des plus passionnés.
Vous aviez conscience de l'importance de l'enseignement.
Du savoir. De l'enseignement, du savoir.
Mais vous n'étiez pas du tout Tom Sawyer, du coup, alors, oui.
Non, mais j'étais fasciné. De même, à l'école que j'adorais, j'étais attiré par les cancres. Ah. J'avais envie de sympathiser avec eux. D'ailleurs, Tom Sawyer, s'il le veut, d'ailleurs, il n'est pas cancre, il y a un autre qui est avec lui, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est lui un vrai cancre. Tom Sawyer, c'est l'attirance de la liberté, l'attirance du Mississippi notamment, de cette île, la vie des pirates, c'est l'imaginaire en fait. Mais moi, l'imaginaire, je le trouvais curieusement dans la matière des livres d'école. Surtout, je dois dire, surtout en français. J'aimais passionnément le français. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je me destinais très naturellement à une carrière d'enseignant. C'était pour moi le métier le plus prestigieux qui soit.
C'est le phrasé qui vous plaît chez lui ? C'est la sonorité ?
Ah, c'est les histoires, c'est le ton ironique et le ton, ce mélange d'ironie, de tendresse. Il y a tous les personnages, même cette grande-tante Polly, au début, qui pourrait n'être qu'une mégère autoritaire et sèche. Eh bien, en fait, c'est une femme qui est très, très aimante. Toutes les figures de ce petit village, de cette petite ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg, sont des figures très, très attachantes, y compris même, d'ailleurs, l'Indien, vous savez, qui meurt. C'est une scène absolument fantastique. Joe l'Indien, qui meurt enfermé dans la grotte. Enfin, là même où Joe Tom et Pecky ont failli eux-mêmes mourir, lui va y passer. Mais ce personnage-là finit, qui est terrifiant à la première fois où on le découvre dans les cimetières, devient ensuite une figure absolument pathétique. Donc c'est cette humanité profonde qu'il y a dans cette petite ville, la précision des scènes, l'humour constant dès le début, notamment de Tom. Et puis sa faculté de rêver, son goût pour les pirates, son goût pour l'ailleurs, tout ça m'a donné, oui, je pense que ça donne aussi un sentiment de la liberté.
Vous m'aviez dit un jour, Denis Podalydès, vous m'aviez dit un jour, il y a 4 ou 5 ans, pour une chronique que je faisais sur les classiques pour Europe 1, que Twain avait ce talent de mettre le lecteur à hauteur d'enfant.
Oui, ça c'est vrai. Mais je l'ai éprouvé moi-même. En lisant à mon fils, on a lu intégralement le roman de soir en soir. Ça a pris donc un temps assez long, puisque c'était à peu près un chapitre par soir. Eh bien, mon fils a totalement épousé les contours de l'histoire, s'est identifié à Tom. Je pense que Tom, mon fils, a 6 ans et demi, et il a toute sa 6e année à peu près, on a lu Tom Sawyer, au cours de sa 6e année, et bien il est parfaitement identifié.
Merci beaucoup Denis Podalydès.
Je vous en prie.
Et effectivement, ça vaut le coup de se procurer quelques-uns des livres audio que vous avez enregistrés, ça permet en plus de passer quelques heures avec vous, ça vaut le coup. Merci beaucoup Jean-Hubert Galliot.
Merci.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, d'autres livres cultes, d'autres auteurs qui s'adressent aussi aux enfants, Dumas et Tolkien. Dans un instant, Didier Barbelivien, dis-moi ce que tu chantes.